Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Cette émission, nous allons la consacrer aujourd'hui au poète Gazaoui et au poète israélien. Donc au poète palestinien et au poète israélien, que nous voulons unir, puisque la poésie n'a d'autre intention, bien entendu, que celle de rapprocher les hommes. Et il faut le rappeler, à tout moment, il faut rappeler que les poètes, la voix des poètes, et pour dire, bien entendu, ce qui se passe, pour dire ce qui devrait être et qui n'est pas, mais également pour rappeler aux hommes qu'ils sont toujours les maillons d'une même chaîne et que les hommes n'ont d'autre vocation que de celle d'être unis. Tout d'abord, je voudrais donc vous conseiller la lecture d'une anthologie de la poésie gazaoui d'aujourd'hui. Ce sont les textes traduits de l'arabe, donc de la Palestine, par Abdelatif Lahbi, que nous saluons ici, un grand poète, Abdelatif Lahbi, grand poète marocain, franco-marocain. Et cette anthologie est faite de poèmes, donc, qui ont été réunis par Yassine Adnan et a pour titre « Y a-t-il une vie avant la mort ?» Donc, vous voyez l'inversion, hein, « Y a-t-il une vie avant la mort ?» Et c'est extrait d'un poème d'un poète palestinien qui s'appelle Mourid al-Barghouti. Il est né en 1944, il est mort en 2021, et il a publié un recueil qui s'appelle « Folle nuit » qui dit ceci. « Je fais le bilan depuis ma naissance, et dans mon désespoir, je me rappelle qu'il y a une vie après la mort. Je n'ai aucun problème, mais je demande, ô Dieu, y a-t-il une vie avant la mort ?» Voilà. Donc, dans le... La préface donc de cette anthologie, Abdelatif Lahbi a écrit, et c'était en 2024 qu'il écrivait ceci, ce florilège, il conclut, c'est la conclusion de la préface. Ce florilège nous donne un concentré de ce que cette anthologie nous réserve, une plongée dans l'histoire tragique qui se déroule sous nos yeux à Gaza, ce que les poétesses et les poètes appartenant, qu'ils y résident, ou fasse partie de la diaspora, à ce bout de Palestine, abandonné par les dieux et les hommes, parviennent à nous transmettre les dernières pépites de ce qu'ils ont sauvegardé en eux de leur indéracinable identité humaine. Ayant fréquenté, défendu et illustré la poésie palestinienne depuis plus d'un demi-siècle, j'ai tendance à penser que celle-ci, génération après génération, a fait sienne cette idée que je ne suis pas mécontent d'avoir exprimée. Un peuple ne peut triompher de son oppresseur, pardon, que s'il lui est supérieur moralement. Un peuple ne peut triompher de son oppresseur que s'il lui est supérieur moralement. Les voix qui s'élèvent de ce livre honorent largement les attendus d'une telle éthique. Puisse l'empire de la mort ne pas submerger l'îlot prodigieux de la poésie, nous dit Abdelatif Lahbi. Je prends au hasard les poètes de cette anthologie. Esman Abu Asaker. Il est né en 1990 à Gaza, donc. Et il réside aujourd'hui à Istanbul. Écoutons-le. Poème. En toi je baigne mes morts et fais résonner mes funérailles. En toi, ô mort, je retentis, moi, la balle unique, la balle d'essai. Ah, Gaza, si tu pouvais faire une bonne sieste pour restaurer une dernière fois ce corps qui s'écroule et jouir d'un sommeil paisible comme celui des feuilles blanches sans histoire. Je suis venu comme un arbre qui a perdu son tronc lors d'une rixe entre d'anciens bûcherons. Le brasier m'attendait. Les gens de Gaza n'étaient pas visibles aux yeux du monde, mais un brouillard en train de se dissiper. Nous sommes le brouillard qui se dissipe autour des maisons et alentour des arbres, sur le littoral, dans l'obscurité et dans les recoins acérés. Demain, lorsque le soleil brillera, nous ne serons plus ici. Quelle ruine dans l'existence, reluisant à la place du néant. Nous existons et brûlons. Nous éclairons les monstruosités humaines avec tout ce dont nous disposons de lumière. Je voudrais emprunter à Shakespeare son imagination, sa beauté à Baudelaire, ses moustaches à Dali, ses doigts à Modigliani, ses épaules à Sisyphe, son marteau à Nietzsche, son courage à Jeanne d'Arc, et me trouver dans une chambre d'hôtel avec vue sur mer, où l'air est doux et pur, où ma dépouille pourra enfin prendre des vacances. Qui a volé l'eau? Qui a mis le feu au sentiment? Qui a miné le rire? Qui a jeté la catastrophe dans notre quotidien? Qui nous a fait miroiter le salut? Qui nous a dénudés? Qui a effacé notre question? Qui a clôturé des pleurs nos yeux? De départ forcé nos cœurs? Qui a colonisé la proscription et pris ses aises dans notre soumission? Qui a traîné la paix dans la boue, retiré la faim de son fourreau? Qui a rendu le visage orphelin et ôté l'étonnement de ses traits? Qui a menacé la curiosité et percé le temps? Qui a numéroté l'éternité, ouvert le portail de l'enfer? Qui a sorti les batailles du sommeil du baroud? Qui a fait peur aux palans et malmené la route? Qui a terrorisé la venue, kidnappé le regret et condamné l'excuse? Qui a versé le sang de la victime et lustré sa saignée? Qui a agressé l'effluve de la rose et fait de la noce dans l'imagination de Dieu? Qui a brisé le silence? Qui a humilié les rides? Qui a découpé le cri? Qui a fait s'échapper les larmes et a embrassé la pénombre? Qui a fait bouillir le matin et écorcher l'après-midi et ôter sa ferie au coucher du soleil? Qui a pillé l'idée et monnayé le désespoir? Qui a dénaturé la solitude? Qui a dilapidé la beauté? Qui a intimidé la jambe qui danse et conspué le bracelet de sa cheville? Qui a ouvert le corps, violé l'âme et laissé tomber les grains du chapelet de la mémoire sur les tambours du monde? Qui? Je vais passer maintenant à Aya Achour. C'est un poète qui est né à Gaza en 1998, dans une famille de réfugiés qui est originaire de Bis As-Sabou. Il a fait des études de sociologie, de psychologie. Il a publié dans une maison d'édition de Ramallah un conte et un recueil de poèmes pour la jeunesse. Et depuis le début de la guerre, il s'est trouvé bloqué entre guillemets, aux États-Unis. Soudain, je me souviens de mon désespoir. Où étais-tu, au ciel, quand nos maisons étaient bombardées? Où étais-tu, ô mer, quand nous étions en train d'être carbonisés? Tant l'heure ton autre joue. Ce monde blanc, qui ne croit plus en Jésus, t'adjure au Gaza. Tant lui l'autre joue. Car il ne s'embarrasse ni de l'histoire ni de la géographie. Tends-lui ton autre joue, au Gaza. Donne-lui jusqu'à la mer cette fois-ci, si bon te semble. Le monde t'adjure maintenant, alors que tu vis ce qu'aucune ville sur terre n'a connu, de voir embrasser la main de l'assassin de tes enfants, rien, au Gaza, ne permettra de reconstituer des corps entiers avec des lambeaux de chair, nulle paix ne compensera une seule de ces cérémonies funèbres où le corps des martyrs est absent. Peut-être que ceux-ci ont cessé de monter au ciel, ou qu'aucun ne bénéficie plus de ce luxe. Comment des lambeaux de chair peuvent-ils voler si haut? Peut-être que les martyrs n'ont consenti à la mort que lorsqu'ils ont pris conscience quel était l'unique moyen de s'unir à leur terre pour l'éternité. De l'Orient à l'Occident, ni une foule, ni un souverain n'essuie la mort de ton front au Gaza, ou te présente au moins leurs condoléances. Les avions les en empêchent probablement. Ne t'en fais pas au Gaza. On dit que la mort est un bienfait dont ne bénéficient guère les immortels. L'Égypte t'a enfin apporté plusieurs chevaux de Troie, ulule de joie, car les chevaux, à Dieu ne plaisent, ne sont pas remplis de soldats, juste de vivres, pour que tu ne meures pas de faim au Gaza. Les chevaux sont remplis de linceuls, indignes du voisinage des pharaons, et pas un seul exemplaire du livre des morts, pas une goutte de carburant pour nous éclairer et pouvoir distinguer notre survie de notre trépas. Réjouis-toi, ô Gaza. Nous ne sommes plus tués pendant que le monde dort. Le monde est bien réveillé, il danse et chante, d'aucuns suivent de nos nouvelles ce qu'il est possible de supporter. Une minorité manifeste à ces heures creuses, et notre monde arabe attend sur des chardons ardents que mille et une nuits se passent pour que tu en finisses au Gaza avec le décompte de tes milliers de victimes. Nour Baaloucha. Alors, cette poétesse palestinienne, elle est née dans le nord de Gaza en 1988 et elle vit actuellement à Bruxelles. Et elle prépare une thèse qui aura pour objet la Palestine et la colonisation, ceci en lien avec le département des études sur le Proche-Orient de l'Université de Stockholm. Et puis elle a publié déjà une pièce de théâtre qui s'intitulait Le jeûne du piano, Nour Baaloucha. Que les embarcations emportent les enfants vers autre chose. Partout, on ampute. Et je ne sais pourquoi les fleurs continuent à pousser dans les jardins, qu'elles poussent ailleurs, opaques, terrifiantes, obscures. Il faudrait qu'elles poussent autrement, pour devenir des mains et des pieds, une maison ou un rire. Les fleurs doivent emprunter un autre chemin et qu'elles poussent, poussent, poussent dans des lieux nouveaux pour l'éternité. Partout, on ampute. Et j'ignore pourquoi la musique sort encore des instruments. Pourquoi les instruments parlent-ils? La musique devrait marcher, marcher, pour devenir un cri, un tressaillement ou une larme. que les larmes se transforment en musique et les trémolos en voix puissantes, ininterrompues, des voix qui ne s'attardent nulle part, ne se taisent pas. Que la musique change de route et crie dans des corps nouveaux pour l'éternité. Nour Baaloucha. Des pas ne pouvant aboutir. Je veux des yeux pouvant pleurer tout le temps. Des pas capables de parvenir à quelque chose que j'ignore. Car il y a quelque chose que nous ignorons et où nous aimerions retourner, à l'image des terres qui retournent à leur nature et crient, des sourires qui font de même et s'éclipsent, des rues qui ne sont pas en reste et se remémorent les pas des passants. Je veux quelque chose à quoi revenir. Et une porte de derrière pour la fuite. Je veux serrer contre moi tout ce que j'ai perdu d'un coup. C'est pourquoi je veux un puits de main et de corps, un bâton sur quoi m'appuyer, une route vers où marcher, et une larme que je chargerai de tous les ports d'attache chaleureux et d'histoire. Puisse-t-il se dissoudre et que le sel qui y fond devienne une chose nouvelle. Même si ce n'est qu'une poupée, je l'aimerai. Je veux un rivage que j'aime, qui m'aime et nous aime. Je veux une lumière qui n'éclaire pas et n'entre nulle part. Je la veux vraie et qu'elle se mettent à construire, à restituer quelque chose, à cheminer vers nous. Je veux qu'un seul enfant revienne à la vie, même s'il se présente renfrogné, larmoyant. Je veux qu'il arrive, qu'il coure vers quelque chose, qui ne soit pas une forêt, une mer, un conte, mais une idée, une seule idée sur la sécurité. Disparu dans un puits de trépassés et d'orphelins. Les pigeons ont brûlé. La scène est très différente. Il y avait un chat qui marchait sur le muret, un bébé dans son berceau que toute la famille appelait et qui gazouillait à l'adresse du monde entier. Il y avait des arbres. À la porte de la demeure, un jasmin et un pied de vigne. Il y avait deux enfants qui gardaient une part de leur argent de poche pour se procurer des crayons de couleur et des cahiers. Il y avait deux amoureux qui s'entendaient sur un rendez-vous. Il y avait des odeurs. Une mère qui criait contre Ahmad, Mahmoud, ou Salé. Il y avait quelque chose qui se passait, quelque chose qui devait se passer. Le chat s'est enfui. Le lit s'est cassé. La famille a été engloutie dans les débris. Les couleurs ont fondu, sauf une qui s'est répandue. Partout, tout s'est arrêté. Alors tout s'est arrêté, comme elle dit, et une seule idée sur la sécurité est disparue dans un puits de trépassés d'orphelins. Cette puits de trépassés d'orphelins, et ces couleurs où tout s'est arrêté, eh bien ça s'est arrêté aussi le 7 octobre 2023, dans la razzia pogromique contre les Juifs d'Israël. Donc, il y a là deux souffrances que nous voulons mettre en parallèle la souffrance des Juifs et la souffrance des Palestiniens. Et nous espérons vraiment que la poésie, que les poètes dresseront ce rempart, comme disait Labi, contre la dégradation de l'humain par l'homme, comme une arme miraculeuse, selon la formule d'Aimé Césaire. Et alors que les bombes pleuvent et que la terreur règne, ces 26 voix gazaouis de cette anthologie s'élèvent. Elles s'élèvent, vous l'avez vu, ce sont des voix crues, effrénées et lucides. Elles crient les horreurs de la guerre et le silence du reste du monde. Mais y a-t-il vraiment ce silence du reste du monde? Je ne crois pas. Je pense que non, que le monde reste toujours en éveil et que peut-être il y a eu un silence beaucoup plus fort pour le 7 octobre que le silence maintenant pour les bombardements sur Gaza. Alors face à une réalité, comme dit Labi, apocalyptique dans ce lieu où l'espoir a été aboli, le miracle des mots continue néanmoins d'opérer. C'est ce que nous souhaitons. Je vais vous lire un dernier poème de cette anthologie, donc, de la poésie gazaoui. C'est un poème de Asraf Fayad. Il est plasticien aussi. Il est né à Gaza en 1980 et il a quitté sa terre natale pour s'installer en Arabie Saoudite. Mais en 2014, il a été arrêté après la publication à Beyrouth de son premier recueil de poèmes, dont certains textes sont jugés blasphématoires et portant atteinte à la foi des croyants. Asraf Fayad, il a été d'abord condamné à la peine capitale, on en avait parlé ici à Radio Occitanie à ce moment-là, une peine qui a été commuée plus tard en 8 ans d'emprisonnement grâce à une campagne internationale de solidarité en sa faveur à laquelle nous avons participé. Et Asraf Fayad a été libéré en août 2022, mais il ne peut pas quitter le territoire saoudien. Alors 2 de ses recueils de poésie ont été traduits en français. C'est « Instructions à l'intérieur » qui est paru au temps des cerises que nous avons lu ici sur cette antenne, qui est paru en 2015. Et puis « Je vis des moments difficiles ». Ça a été publié par la Maison de la Poésie Rhône-Alpes en 2019. Écoutons Asraf Fayad. Avant que la guerre ne finisse, il fallait que la dévastation se réserve la part du lion, que l'acuité de la douleur atteigne des sommets, tant que les humains avaient choisi de faire du monde un lieu sûr, voilà bien des siècles, sans jamais y réussir. Lorsque l'attente était devenue un choix, ma patience était déjà à bout et la guerre n'a pas cessé. Cela commençait à ressembler à une série de dessins animés où le méchant n'est jamais à court d'idées, malgré la victoire du bien lors de la précédente bataille que nous espérions être la dernière. À bord de cette planète, seul l'être humain porte en lui le mal comme un attribut véridique. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment la mort à tout moment est-elle devenue un choix envisageable et probable? Comment la mer a-t-elle renoncé à son bleu au profit du rouge qui perd sa qualité une fois plongé dans l'eau? Mais le rouge reste rouge, et la mer n'en peut plus de ce qui se passe sur terre, comme nos yeux n'en peuvent plus de la brûlure des larmes, de la lueur des explosions et de la vue des restes humains carbonisés. La mer n'en peut plus de la neutralité du ciel et de l'obscurité qui s'est effondrée sous le joug de la peur. Elle a renoncé à sa prééminence pour protester en premier lieu contre la simple existence de la raison humaine. Dans un autre lieu du monde, et partout ailleurs dans le monde, les enfants naissent et obtiennent sans bourse déliée un pays. Nous devons, quant à nous, offrir notre vie pour obtenir un pays, juste pour y être enterrés. Et encore, si nous avons de la chance. Il ne nous suffit pas que le monde ait des regrets, ni la mauvaise conscience, ni les oraisons funèbres, lestées de tristesse, ne guériront nos blessures. Nous ne nous enorgueillissons pas d'un monde tel que celui-ci, et nous ne le reconnaissons pas. Nous ne sommes convaincus d'aucune de ces valeurs dont nous n'avons connu que l'aspect théorique, strictement inapplicable. Le dernier de Fayad. Ensuite, cette nuit, je n'ai pas envie de dormir. Pour s'accomplir, le sommeil a besoin de plus que de fatigue et d'épuisement. Cela dépend la plupart du temps de notre relation aux choses. La compagnie, ou son antonyme, la solitude. Le contraire est le siamois de son contraire, même si l'existence de l'un, d'eux, ni l'existence de l'autre. L'amour n'est plus qu'un simple souvenir, participant d'un passé dont je n'arrive pas à discréditer suffisamment la marche à l'aveuglette. Ce qu'il y a de pire dans le passé, c'est qu'il est vraiment advenu. Cela laisse une trace indélébile et le champ libre au regret dans toute sa splendeur. Ce qui s'est passé s'est vraiment achevé. Mais les dégâts engendrés ne peuvent pas facilement être réparés. L'isolement m'empêche de me détendre un peu, affecte mes fonctions vitales d'une agitation incontrôlable. Dehors, les gens sont des bêtes invétérées, courant après des illusions qu'ils ont inventées. La météo sape le moral. Le tumulte de la ville s'infiltre à travers les gouttes de pluie qui ouvrent soigneusement leur chemin vers le centre de la terre. Les reflets des feux des voitures se balancent sur la terrasse, plongés dans un marécage de questionnements sans fin. Nous ne nous entendons plus très bien, la pluie et moi, depuis que nous avons découvert de concert que le ciel n'a pas de face déterminée, que la terre est capable d'observer le silence total jusqu'au dernier jour de son existence et de celle de l'univers entier. Voilà. Donc, anthologie de la poésie gazaouie d'aujourd'hui. Les textes sont traduits, je le rappelle, de l'arabe dans Palestine par Abdelhadif Larbi et ont été réunis par Yassine Abdan. Ceci est aux éditions, donc, Le Point, aux éditions Point, c'est le seuil, je crois, donc dans un livre de poche, donc très abordable, donc pas du tout cher, et c'est une collection qui est dirigée par Alain Mabankou et qui a pour titre « Gaza, y a-t-il une vie avant la mort ?» Collection donc « Point Poésie » que vous pouvez vous procurer. Voilà. Et puis, bien entendu, alors, la souffrance des Gazaouis ne peut pas faire oublier ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 pour cette razzia pogromique qui a été une horreur absolue et dont l'horreur maintenant de Gaza quand même est la conséquence. Et la conséquence, sans ce 7 octobre, il n'y aurait pas de bombardement à Gaza, loin de là. Il ne faut pas oublier ça. Et donc je voulais, mais je crois que je n'aurai pas trop le temps, je voulais lire un texte de l'exil de Mahmoud Darwish, bien sûr, le grand poète palestinien. Mais avant, je vais vous lire un texte de Alain Suyed, poète juif, dont nous devons honorer la mémoire de Alain Suyed. Jérusalem, Gaza, c'est les notes d'un voyage d'Alain Suyed, voyage qu'il avait effectué, écoutez bien la date, en septembre 1994. Écoutons le regretté, très regretté, Alain Suyed. 11 septembre 1994, Orly Sud. Je découvre la délégation française. Daniel Sibouni, psychanalyste. Haïm Zafrani, spécialiste de la culture judéo-maghrébine. Si méconnu, si riche, si douloureusement ancré dans l'exil. Enrico Macias. Je suis accueilli par le courageux et discret Michel Écart Elial, directeur de la revue Le Vent, qui a convié Habib Samarkandi, que nous saluons, à Toulouse, qui vient du Maroc, qui représente le Maroc, et Giuseppe Goffredo, qui vient d'Italie, à se joindre à nous. Me voici, dit Alain Suyed, promu traducteur du groupe. Je passerai le séjour dans les territoires intimes de l'anglais, de l'italien et du français, sans mentionner l'arabe et l'hébreu, dont je ne garde que des notions de la très proche musique. J'ignore pourquoi j'étais choisi pour participer à la première rencontre entre poète, artiste et responsable culturel arabe et juif jamais organisé à Jérusalem. Mais je crois avoir compris le message. Réaliser un acte concret et non plus se contenter des colloques et des déclarations d'intention trop confortables. Un acte de paix et de dialogue. Kelit, peace, créer la paix, a été voulu et organisé par le président de l'État d'Israël, Isaac Weizmann. Nos hôtes et nos accompagnateurs seront des membres du Centre international pour la paix au Moyen-Orient, créé en 1982 et animé par des proches de Shimon Peres, signataire avec Rabin et Arafat des accords d'Oslo. Voilà, vous avez vu ce que ça donnait. Rabin s'est fait assassiner, et on peut dire que l'assassin de Yitzhak Rabin est maintenant fait partie de le groupe politique qui a organisé cet assassinat, et maintenant fait partie quand même de la coalition du gouvernement actuel israélien. Poursuivons alors de ce que dit Alain Suyed. Je ne peux m'empêcher de songer au risque de me trouver plongé dans une opération simplement politique. Dans l'avion d'El Al, les délégués marocains et tunisiens, que nous saluons avec émotion et surprise, semblent ne pas se poser de questions. Abdelkebir Khatibi, qui vient d'être nommé directeur du CNRS marocain, me parle de la poésie de Paul Éluard et de mon recueil la lumière de l'origine. Vous semblez fabriquer votre lecteur, vous l'obligez à vous suivre, me lance-t-il. J'ai soudain l'impression de rêver dans les nuages, au-dessus de la Méditerranée. Notre rangée de fauteuils est devenue une yeshiva improvisée, un dialogue traduit, de nouveau kuzari, un diwan aérien. Dans les salons de l'aéroport Ben-Gurion de Tel Aviv, Ofter Bonstein et David Dadon nous accueillent et nous donnent connaissance du programme des prochains jours, petit déjeuner avec Shimon Peres, rencontre avec Yasser Arafat, Gaza, après-midi à la présidence, dîner officiel, dialogue avec députés, journalistes, écrivains palestiniens et israéliens, voyage à El Al et à Aqaba. Ofer et David parlent arabe et français d'emblée. Nous échangeons tous les souvenirs de nos enfances maghrébines. Nous commençons à reconstituer un puzzle étrangement cohérent. 12 septembre, 7h15, Hôtel Yat, Jérusalem-Est. La délégation francophone est au complet dans son habit traditionnel. Tayeb Sadiki, c'est un homme de théâtre, attire tous les regards. Élève d'Alain Touraine, Adil Djalouli, semble plus ému. Mehdi Kotbi nous parle rapidement de la future rencontre de Rabat. Journaliste d'opposition, Khalid Hamal, au bras de son épouse Anne, canadienne vive et sans détour, retient son souffle comme à l'affût d'un signe, d'une certitude. Le Maroc est notre avant-garde. Amaigri, blessé par un cancer, Haïm Zafrani s'approche de ma chaise. Je me décide à lui livrer mon étonnement, mes questions. Qu'est-ce qu'un poète fait dans cette réunion politique? Son visage s'éclaire. Mais Alain, vous allez planer au-dessus de nous. L'arrivée du ministre des Affaires étrangères lui donne bientôt, en partie, tort. Shimon Peres prend d'emblée la parole. Ladies and gentlemen, les poètes précèdent toujours les hommes politiques, qui ne font que suivre leurs intuitions avec retard. Mais cette fois, ce sont les hommes politiques qui ont pris de l'avance. Et c'est à vous de nous rejoindre. C'est à vous de nous aider à réaliser l'utopie, à rêver la paix avec nous. Nos réponses sont brèves, heurtées. Khalid Jamaï se présente. Il est un compagnon de route de Yasser Arafat et continue de lui être proche et dit son émotion de participer à cette rencontre inattendue pour lui. Il ajoute ces mots qui seront synthétisés notre commune démarche. Les seules frontières sont celles qui obstruent nos cœurs. Les frontières de la terre sont arbitraires. Tout passe par le dialogue, face à face. 12 septembre, 9h, en route pour Gaza. Le silence le plus comblé règne dans notre autobus quand nous arrêtons au poste frontière. Jeunes soldats palestiniens en uniforme bleu succèdent aux jeunes soldats de Tsahal, mais nous n'avons le sentiment réel du passage qu'une fois arrivés dans la ville, soudain, tout n'est que ruine et haillons. Rue encombrée de détritus. Les amis soudanais et tunisiens rompent notre stupéfaction en nous traduisant les inscriptions qui ornent les murs. Gaza est coupée en deux. Une rue sépare la partie sous influence du Hamas de la partie plus favorable à Arafat et à son équipe très réduite. Sur certains murs, c'est la paix qui est dénoncée, satanisée. Sur d'autres murs, on appelle à la propreté des rues, on fait danser la calligraphie des noms des leaders palestiniens. Une école maternelle fait sonner la cloche de la sortie. Je m'aperçois que je suis le seul à répondre aux signes de main des enfants. Nous sommes angoissés, nos idées reçues, fort diverses, selon nos origines, commencent à voler en éclats. Nous sommes devenus un groupe. 11h45. Le QG d'Arafat se trouve hors de la ville, au bord de la mer. Le bâtiment est en partie en ruine. Nous sommes installés sur des chaises en plastique et nous nous levons dès que nous apercevons l'homme d'Oslo, le délégué syrien qui n'a pas voyagé avec nous et se veut la vedette de la manifestation, se lance dans un discours dont la langue de bois et rafle les oreilles des plus patients. Arafat semble absent, ses mains tremblent, ses conseillers lui confient quelques mots de patience. Le jeune Asraf Azouz, éditeur tunisien qui a connu Arafat lors de son exil et ne reconnaît plus sa vivacité, applaudit avant la fin la litanie de compliments et d'appels au combat, sortie d'un autre âge, rapidement imité par l'ensemble de la salle. Arafat se lève et sourit à nouveau. « Aidez-nous, » s'écrie-t-il. « Ne me laissez pas seul. » Les difficultés de son peuple, qui connaît un chômage inouï, l'isolement qui est le sien depuis la guerre du Golfe, le lâchage de plusieurs de ses conseillers ont marqué ses traits. Mais la signature des accords d'Oslo l'a amené à franchir une frontière différente, une frontière intérieure. Arafat a fait un pas hors de son propre univers et il attend de savoir si les siens, si le monde sauront le rejoindre. Les délégués arabes de Great Peace sont des artistes. Ils le comprennent, ils l'acclament. Ils répondent concrètement à son geste. Enrico Macias s'approche de lui, l'embrasse et chante le grand pardon. Perle Chemla de l'association Identité et Dialogue et Ofer Bronstein pleure. Chacun de nous bascule dans l'émotion des autres. Retour vers Jérusalem. Nos impressions sont identiques. Ici, tout tient un fil. Menacé par les intégrismes et par la misère. L'espoir de paix est une utopie. Un enfant sans défense. Un cri qui espère son écho. Arafat semble brisé. Inclure Israël dans le contexte méditerranéen, exiger l'aide économique occidentale qui tarde à venir, rêver des projets communs pour les peuples palestiniens, jordaniens, israéliens, tout devient urgent, tout devient la même urgence. 16h30. Présidence de l'État d'Israël. Ezer Weishman n'échappe pas aux délégués syriens. Poursuivi par les journalistes, leur accolade fera la une de plusieurs quotidiens. Devant l'ambassadeur d'Égypte et une foule de personnalités internationales, un spectacle va réunir artistes et poètes arabes et israéliens. Le groupe Bustan Abraham, composé de Palestiniens et de Juifs, ouvre la joyeuse cérémonie. Yeshuara et Yehuda Amirai disent des textes. Ali Salem, Betzeler, égyptien, nous raconte son voyage du Caire à Jérusalem. La troupe El Akawati mêle dans une pièce les angoisses des mères palestiniennes et israélienne. Salman Natour, arabe israélien, est l'ordonnateur de la soirée. et trouve tout ceci presque habituel. Arabes et juifs séfarades évoquent leur pays d'origine, leur enfance commune. Ofer Bronstein n'est-il pas l'un des jeunes loups dont Pérès, l'Askenaz, a voulu s'entourer pour casser les trop rigides barrières qui se dressaient devant les négociateurs d'avant 93? Cet après-midi est sa fête, est leur fête, une fête méditerranéenne. Voilà. Donc, ces notes d'un voyage et d'une rencontre qu'avait organisée donc notre ami, le poète, éditeur, Michel Eckart Elial, qui aujourd'hui a vécu longtemps, bien entendu, en Israël, a été professeur aux universités, les universités israéliennes, et qui aujourd'hui continue de diriger les éditions Levant, d'où sont extraits, bien sûr, ce que je viens de lire du grand poète Alain Suyed. C'était la revue Levant, les cahiers de l'espace méditerranéen. Donc, c'était le numéro 10, et c'était en 2009. Et dans les quelques minutes dont vous voyez, les poètes, il faut qu'ils organisent ça, ces rencontres. Car les poètes, ils ont la capacité, de pouvoir se parler et de pouvoir arriver évidemment à pouvoir imposer la pensée de la paix. Je vais finir sur un texte, donc de poème de Michael Gluck, d'une Jérusalem absente, donc une poète israélienne. Je vous écris d'une Jérusalem absente, d'Yerushalayim, d'Al-Quds. Je vous écris d'une Jérusalem inversée qui peuple mes nuits. Je vous écris sous la croisée des voies, dans l'insomnie de la blessure. J'écoute, j'écris. La main écrit, le sang dans la main écrit, le sang à l'écoute des voix. J'écris, malgré tout, contre tout, j'écris pour. Je vous écris d'un lointain titubant entre les noms. J'ai des yeux sans image, des yeux tournés vers l'intérieur, des visages perdus, des yeux retournés vers l'énigme des voix, malgré tout, contre tout, qui se lève pour. Et puis il y a, en exergue, ces quelques vers du grand poète israélien Yehuda Amichai. En ce printemps, qui donc se lèvera et dira à la poussière, tu es homme, et à l'homme, tu retourneras. Je vous écris de l'entre-deux des draps, un drap pour nos amours, un drap pour nos angoisses. Mon lit est une tente plantée dans le désert. Les voies y sont lumière, lampes et chandeliers, poèmes, malgré tout, contre tout, debout, debout. Un exergue, un poème de Mahmoud Darwish. Le poème est dans l'entre-deux, et il peut, dessin d'une jeune fille éclairer les nuits, d'une pomme éclairée de corps, et par le cri du gardénia, restituer une patrie. Je vous écris d'une ville qui n'est pas encore, d'une ville qui n'est plus, d'une ville à bâtir dans les lignes de vie, écorchée dans nos pommes. Je vous écris dans les nœuds des poèmes. Je vous écris d'une ville que je ne connais pas. Et puis, et l'on va finir là-dessus, en exergue, ces vers de Abdelatif Labi, dont nous avons parlé tout à l'heure à propos de l'anthologie de la poésie gazaoui. Écoutons Labi. Écris donc, tant que tu en auras la force, ton écriture ne sera jamais un tison de haine alimentant le brasier des haines. Voilà. Nous allons nous arrêter peut-être ici, juste continuer pour ce dernier vers donc de cette poétesse entrecoupée donc de citations de poètes. Des enfants dans les rues jonglent, sous la peau d'orange on entend la chute d'une colombe, des faucons s'envolent dans la rumeur des fontaines, je n'écris pas, j'écoute, je laisse en moi monter nos voix. En exergue, ces vers de Ibrahim Sousse, j'exprimerai un flot d'amour, je te parle de deux âmes sœurs qui se déchirent et s'entre-dévorent en éparpillant leur trésor. Je vous écris d'une Jérusalem absente, d'Irishulaim, d'Al-Quds, je vous écris d'une Jérusalem dont les noms chantent, des enfants dans les rues jonglent, je jongle dans les rues d'une ville à venir, je jongle avec vos livres, malgré tout, contre tout, et pour. Et un exergue, ces vers de Michel Écart Elial, après la pierre, après le feu, redécouvrons le miracle du commencement. Voilà. Ainsi donc s'achève cette émission. Tous ces textes étaient extraits donc de la revue Le Vent, texte de la deuxième partie de cette émission. Donc je rappelle toujours Anthologie de la poésie Ghazaoui aux éditions Point Poésie. À la semaine prochaine. Bonne écoute sur Radio Occitanie.